J'ai fait la liste des petites choses que je ne voudrais pas oublier, puisqu'il s'agit ce matin, comme tous les matins dans cette émission, vous nous connaissez, de partager mes clés. Je voudrais pas les oublier, mes clés. Je vérifie toujours à deux fois avant de claquer la porte. Mes clés et mes cigarettes, ma tête, mon premier amour, j'ai peur de l'oublier un jour, le coup de fil à passer, le costume à récupérer, le pain à acheter, et puis le parfum de ma grand-mère, même s'il n'existe plus, il a disparu. Ni vu ni connu, ils le font plus, ce parfum. Je voudrais pas oublier les coquelicots non plus, ces mauvaises herbes qui paradaient au bord de la route, dans l'Allier, et que je vois de moins en moins depuis quelques années. Pas oublier le goût du chocolat au lait, maintenant que j'ai plus le droit d'en manger. Pas oublier la chance que j'ai souvent, mais pas non plus oublier ce qui m'a fait mal. C'est important parce qu'on se souvient que du meilleur après un certain temps. Je voudrais pas oublier les méchants et tous ces moments dont on refuse qu'ils nous marquent et qu'on met de côté et qui reviennent de temps en temps, mais pas assez souvent. Je fais des listes d'oubli, un petit peu comme des mémos, sauf que je sais que tout ce que j'y écris est voué à disparaître, alors même que ça m'a construit. Ce sont des listes qui portent en elles une sorte d'échec, en fait, les listes de mes futurs oubli.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Avec quels oublis mon invitée d'aujourd'hui s'est-elle construite? Comédienne, iconisée au cinéma par Jacques Rivette dans L'Amour fou, Alain Tanner dans La Salamandre ou encore Barbet Schroeder dans La Vallée, au théâtre, par Marguerite Duras, Luc Bondy ou Claude Régis. Dans J'ai oublié, son premier livre paru il y a quelques semaines aux éditions du Seuil, elle se souvient, dans un texte sensible, dans un texte très puissant. Bonjour Bulogier.
Bonjour, bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord parce que je crois que vous gardez tout, vous conservez tout, vous ne jetez rien. Qu'est-ce que vous avez peur d'oublier?
Je ne sais pas, c'est une maladie. Hein. C'est une maladie qui atteint beaucoup de gens. C'est-à-dire, même une enveloppe vide, je ne la jette pas. Je ne sais pas pourquoi.
J'ai cru que vous me répondriez vos clés tout simplement ou votre téléphone.
J'oublie mes clés, oui, j'oublie mon téléphone, de leur allumer la plupart du temps. Je cherche mes lunettes parce qu'elles sont transparentes et que comment trouver des lunettes transparentes sans lunettes?
Il y a une chose qui m'a toujours fasciné, moi, avec la mémoire, je vais vous dire, et dont votre livre se fait sans arrêt l'écho, Bulogier, c'est pourquoi on se souvient de certaines choses plutôt que d'autres, à votre avis?
Sans doute que ce sont des choses qui vous ont frappé, je sais pas.
Est-ce que ça serait pas aussi pour se protéger?
Écoutez, moi, le titre, c'est « J'ai oublié ». Alors, c'est plutôt des choses que j'ai oubliées et que la mémoire a fait revenir. C'est mouvant, la mémoire. Et lorsque Anne Yatkin m'a proposé de faire un livre, elle m'a proposé de faire ce livre. Bon, moi, j'aurais jamais eu l'idée de faire un livre sur ma propre vie. Je trouve pas ça tellement intéressant, voyez. Et tout de suite, je lui ai dit, c'est pas possible parce que j'ai tout oublié. Et ben, elle m'a dit, ça va être le titre.
Et vous vous êtes servi d'elle pour vous souvenir?
Ah, ben, bien sûr. Quelquefois, on se voyait pour rien ou pour un mot. Et bon, c'est tout. Elle venait, elle faisait je ne sais pas combien de métros, autobus ou talons hauts, et il ne se passait rien. Mais avec ce rien, elle arrivait à faire quelque chose.
Quelle est la plus belle chose dont vous vous soyez souvenu pendant l'expérience de l'écriture de ce livre, Bulogier?
Vous me posez une colle, là. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Peut-être Pascal?
Votre fille?
Oui.
Se souvenir de quoi?
Barbet.
L'homme de votre vie.
Oui, Pascal, parce que comme on l'a évoqué, on ne pouvait pas faire l'impasse sur des choses graves, donc ça l'a fait revivre.
Il y a des choses dont vous auriez aimé jamais vous souvenir?
Oh, il y a plein de choses.
Des images que vous auriez aimé voir disparaître à jamais de votre mémoire?
Ben, évidemment.
Alors on ne contrôle rien, Bulogier?
Si, quand même. Moi, je contrôle quand même un peu. En tout cas, j'ai eu une ligne dans ce que j'ai fait comme actrice, que je pense avoir contrôlé, bien que j'ai refusé des films qui auraient été très bien et des films qui n'auraient pas été bien, ou des pièces. Ça, je n'ai pas toujours très bien contrôlé.
En tout cas, c'est vrai qu'à vous lire, c'est comme si malgré tout ce qui avait pu vous arriver, vous étiez toujours senti entouré, protégé. C'est le sentiment que j'ai eu. Protégé par qui?
Protégé par ma mère, protégé par des hommes.
Et protégé de quoi?
Protégé, je ne sais pas, comme je n'ai pas de père, par ma mère qui a servi de père, par différentes personnes, particulièrement des hommes plutôt, des femmes aussi.
Et on vous protégeait de quoi?
Écoutez, de tout.
Des émotions.
Oui, des émotions.
De vous.
De moi, de mon incertitude, de ce que je trouve mes bêtises.
Pensez à quoi ?
Du temps perdu, des livres pas lus, des films pas vus. On peut pas tout faire.
La solitude, Bulogier, qu'est-ce que ça représente pour vous, vous dont la vie semble avoir été traversée, habitée par tant de compagnonnages artistiques, amicaux ?
Oui, mais quelquefois on est seul. On se réveille seul, on se couche seul, ça arrive. C'est pas très agréable.
C'est quelque chose contre lequel vous avez lutté ?
Non, absolument pas.
Enfin, si c'est pas agréable, la solitude.
Bah tant pis.
Fais avec.
Oui, c'est ça.
Agnès Varda est partie avant que Notre-Dame flambe. Parmi mes amis proches et lointains qui disparaissent continuellement, j'apprends des nouveaux morts chaque semaine. Barbet et moi sommes les premiers sur la liste pour le prochain départ. L'incendie de Notre-Dame est une coupure. Il y a ceux qui ont vu l'inenvisageable avant qu'il ait lieu, et les autres. C'est un extrait de votre livre, Bulogier, l'inenvisageable.
Oui, l'inenvisageable, absolument. Moi qui n'ouvre pas beaucoup la télévision, je l'ai ouverte et j'ai vu la flèche tomber. Et ça a été une émotion incroyable parce que j'aimais tellement passer devant Notre-Dame quand je revenais de la gare de Lyon. Je suis souvent revenue de la gare de Lyon. Et en passant en rive gauche, devant Notre-Dame, je suis née à Paris, hein. Oui. Donc Notre-Dame, c'est quelque chose qui est très très fort dans mon cœur et dans l'imaginaire, évidemment.
Vous vous dites que vous assisterez bientôt peut-être à d'autres événements qui, encore, vous considériez comme inenvisageables ?
Oui, par exemple, on n'a jamais parlé jusqu'à présent de la fin de l'humanité. C'est devenu un sujet dans tous les médias. Donc ça, je ne pense pas que je le verrai, parce que ma date de naissance ne le permettra pas. Mais les petits-enfants, je pense beaucoup à eux.
C'est vrai qu'on vous découvre, hein, spectatrice de l'actualité, observatrice, c'est fascinant, des passants dans la rue, sous vos fenêtres, au détour d'un boulevard. À quel changement, à quelle transformation est-ce que vous avez le sentiment d'assister, Bulogier ?
Il y a des transformations immenses à Paris. Je dois dire que quand Pompidou a décidé de détruire les Halles, j'étais absolument très fâchée et contre et furieuse. Et finalement, le musée Pompidou, c'est formidable.
Le quartier où vous vivez depuis plus de 50 ans, en quoi il a changé ?
Il a changé parce qu'il y a pratiquement plus d'habitants. C'est plus que des bureaux. Par exemple, en face de moi, il y a un très grand immeuble, il y a 500 avocats, vous voyez. Moi, il y avait quand même des habitants, donc il y avait des charcutiers, donc il y avait des bouchers, il y avait des boulangers, il y avait un poissonnier, il n'y a plus rien.
Et ça vous fait quoi, ça ?
Écoutez, ça fait 50 ans que j'habite ce quartier, ça m'attriste. Enfin, je me sens isolée.
Il y a quelque chose d'inquiet à vous lire, Bulogier, dans ce livre. Vous évoquez notamment le rapport angoissé que vous entretenez avec le président américain, Donald Trump.
Ah ben oui, moi je suis atteinte du syndrome Trump syndrome disease, ou du Trump disorder, comme on dit.
Mais ça sonne comme un stress post-traumatique.
Oui, c'est-à-dire que moi je ne vois plus de séries, je vais pas beaucoup au cinéma, très peu. Je vais être très peu au théâtre, ce qui est contraire à mes habitudes, parce que depuis 2016, mes séries c'est le New York Times, le Washington Post, le Vox et les humoristes qui sont très 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 fins et très percutants, qui parlent des catastrophes possibles que va faire Trump. Est-ce qu'il va détruire la planète ou est-ce qu'il va s'autodétruire ? Ce sera le 12 000e mensonge qu'il va faire, alors qu'en Amérique, on sait qu'on peut pas du tout mentir.
J'arrive pas à croire que tout ça, ça prenne toute la place, risque du cinéma.
Ça prend toute la place, c'est-à-dire que j'arrive, j'ai encore le manteau sur moi, et Barbet Schroeder me dit « Viens voir ce que je vois ».
Vous avez peur, Bulogier ?
Oui, j'ai peur, parce que j'ai peur pour notre démocratie, entre autres. Pour le climat, naturellement. On ne peut pas faire l'impasse sur Greta Thunberg. Ce n'est pas possible. Sur ce qu'elle a dit. Elle a dit les parents disent qu'ils aiment leurs enfants plus que tout, mais ils ne font rien pour que le climat s'arrange et que nous, on est dans... Qu'est-ce qu'on va faire plus tard ?
Vous vous sentez coupable ? Responsable ? En tant qu'adulte ?
Ah ben maintenant, je suis un peu trop âgée pour ça. n'est-ce pas? Maintenant, je pense qu'on est coupable maintenant. Il faut faire attention. Très.
Nous vous parlerons d'abord du début de notre grand super show, les idoles du clan.
Comment me trouvez-vous, Raphaël?
Sinistre. Un nouveau film de Louise Buñuel sort à Paris, Le charme discret de la bourgeoisie.
Tu sais, Sébastien, j'ai bien réfléchi. Le mieux, c'est qu'on se sépare. Peut-être seulement quelques semaines, le temps de réfléchir chacun de notre côté.
J'ai vraiment fou, Jack Rivette.
Peut-être qu'après, on pourra revenir comme avant.
Il y a une actrice qui s'appelle Bulle Ogier, qui personnellement, moi, je trouve, c'est une... Voilà, une grande actrice, c'est là, la vraie révélation,
ah oui, non, mais...
c'est Bulle Ogier, vous comprenez.
Ah, Bulle, elle fait partie de mon corps.
C'est Marguerite. Je voulais t'embrasser. Téléphone-moi. Je t'embrasse très très fort.
Je vois que la couleur violette arrive, qu'elle atteint l'embouchure du fleuve.
Je croyais que de nos jours, ça n'existait plus, les terres inconnues. Votre vallée, elle a bien dû être survolée par des avions.
Tu es sûr que tu veux continuer?
Oui.
C'est le dernier poste après, c'est l'aventure, il n'y a plus de route, il n'y a plus moyen de revenir, c'est inconnu.
Ah oui, je sais.
Patrick Chéreau.
Depuis longtemps, je côtoyais Bulle, puisqu'elle a travaillé donc avec Luc, que je l'ai vu très très longtemps à Nanterre, dans mon théâtre, je l'ai vu répéter, je l'ai vu... On connaît bien une comédienne quand on la voit dans ses difficultés, dans les moments où finalement elle résout les choses, et comment elle tient tête au public, et comment elle rentre à l'intérieur d'un spectacle, et je crois que Bulle est quelqu'un d'exceptionnel. C'est une comédienne incroyablement rare et d'un type totalement différent, souvent, des autres comédiennes.
You are alive, Captain. There are two of you, don't you see? One that kills, and one that loves.
Pour quelle raison est-ce que vous avez décidé d'arrêter le cinéma, Bulle Ogier? Vous vous souvenez?
Ben, écoutez, j'ai pas vraiment arrêté d'ailleurs. Mais quand je me vois, je trouve ça terrible. Je trouve ça inregardable. Alors je n'ai pas...
pourquoi?
Parce que ma date de naissance, elle est très loin. Et que voilà, j'accepte mal les effets du temps. Voilà. Et que la caméra est très, très précise. Et que c'est chirurgical et qu'on voit tout. Alors, à moins de tout contrôler, mais je ne suis pas une star qui peut contrôler les lumières. Je les ai contrôlées ici. J'ai dit un tout petit peu moins fort, s'il vous plaît.
Vous avez bien fait de ne pas filmer, donc ça ne servit à rien.
Si, pour les yeux.
D'accord. Ça, c'est une bonne réponse. Jouer, ça a été un besoin pour vous, dans votre carrière, dans votre vie même?
Écoutez, franchement, je me suis jamais dit, quand je jouais pas, oh, c'est dommage, j'ai pas de projet... Ça fait 3 mois qu'on me propose rien, jamais.
Alors qu'est-ce que ça représentait pour vous?
Ben ça représentait de se retrouver dans un groupe, voilà, c'est ça.
Une façon de partir à l'aventure
et
aussi.
Et puis aussi une aventure, bien sûr, c'est toujours une aventure, le théâtre ou le cinéma.
Je pense évidemment à cette aventure épique qu'a été le tournage de La Vallée,
oui,
de Barbet Schroeder en Nouvelle-Guinée.
Oui.
Quelles images, quelles sensations est-ce que vous retenez de ce tournage qui a été sidérant, qui a été dangereux, qui a été complètement fou, Bulle Ogier?
C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce tournage, je ne serais jamais allée en Nouvelle-Guinée, évidemment. Il n'y a pas une chose dont je ne me souviens pas. Par exemple, on tournait, puis tout d'un coup, il y a des flèches qui passent par-dessus nos têtes. Parce que deux tribus se faisaient la guerre. Et le procès qu'on a eu, parce que 3 acteurs, pas moi, se sont mis comme les papous, nus, et sont allés se baigner. Donc il y avait une mission, les baptistes, qui ont fait un procès. Ça a duré 8 jours, donc il y a eu 8 jours d'arrêt. Et on a gagné.
Mais vous avez eu peur à un moment donné lors de ce tournage, ou vous étiez au contraire porté par une forme d'insouciance?
Insouciance.
Ah, c'est vrai?
Oui. Mais non, on a eu peur en voiture. Quand on était avec Jean-Pierre Calfon dans la Land Rover, rempli de papous sur le toit, on était 15 dans cette voiture. Et puis moi, j'étais contre la porte s'est ouverte. Et comme ils chantaient, les papous, et Jean-Pierre avec eux, je suis restée plusieurs kilomètres suspendue à cette porte.
Oh, Bulle.
Oui.
Ça doit être quelque chose.
Là,
ça.
J'ai eu peur.
Mais vous étiez quand même avec Barbet Schroeder. Barbet Schroeder, vous l'avez toujours...
Mais il n'était pas là.
Non, mais il était dans le coin.
Ah bah oui, mais d'accord, mais là, il n'était pas dans la voiture.
Vous lui avez toujours fait confiance, à lui?
Barbet? Oui, bien sûr. Bien sûr.
Vous parlez de l'homme ou du cinéaste, là?
Les deux. Je parle du cinéaste et de l'homme. Ou de l'homme, et du cinéaste.
Pourquoi dans cet ordre-là?
Mais je ne sais pas, parce que le cinéma, c'est beaucoup de choses pour lui, c'est presque tout. C'est, pour ainsi dire, sa vie. Alors, je mets le cinéma, mais je pense que c'est un homme auquel les gens font très confiance.
Oui.
Je me souviens de Fassbinder, qui, quand il venait à Paris, il voulait que Barbet soit là parce qu'il se sentait protégé par Barbet.
Qu'est-ce qui, pour vous, Bulogier, fait un grand cinéaste?
Écoutez, la mise en scène, le scénario, les surprises, la direction d'acteurs, enfin, beaucoup de choses. Mais il peut y avoir aussi des cinéastes qui n'ont pas du tout de direction d'acteurs, comme Bresson, qui est un très grand cinéaste.
Alors là, ça tient à quoi chez lui?
Enfin, je trouve que c'est, par exemple, L'Argent, c'est un film magnifique. Le Pickpocket, c'est un film magnifique. Un film, c'est vraiment un tout.
C'est une sensation?
C'est un grand plaisir.
Vous n'avez tourné qu'avec des grands cinéastes?
Oui, des moins grands aussi.
Je vous pose la question parce que vous écrivez, c'est assez délicieux. J'ai mon petit snobisme. J'ai préféré être une actrice de cinémathèque plutôt qu'une actrice de grande distribution. J'aime bien l'expression actrice de cinémathèque.
Oui. Parce que d'ailleurs, c'est un peu la vérité.
Vous avez le sentiment d'en être une?
Oui.
Alors, ça serait quoi une actrice de cinémathèque?
Ben, une actrice de cinémathèque, c'est une actrice dont les films restent. C'est déjà pas mal.
C'est pas mal, du
oui.
tout.
C'est ça que je veux dire.
Vous pensez à d'autres actrices?
Oh, ben, il y en a plein. On peut penser, à Romy Schneider. Non, je voulais dire Maria Schneider.
Oui.
Dans Le Dernier Tango. Si elle n'avait pas fait Le Dernier Tango, elle ne serait pas une actrice de cinémathèque, par exemple.
Et Jeanne Moreau?
Oh, ben, Jeanne Moreau, la plupart de ses films sont des films de cinémathèque.
Ah, ouais, vous savez quoi, on va écouter Jeanne Moreau.
Ah oui, oui, oui.
Ah, on l'écoute, ouais, Jeanne Moreau. Qui chantait en 1963, ça tombe bien. Ça a quelque chose à voir avec le titre de votre livre. J'ai la mémoire qui flanche. Vous êtes sur France Inter avec Bulogier. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que je m'ai l'appelé par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'a, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Elle porte bien son nom, quelque part, entre la bulle de Perrier et la bulle de Champagne. Elle est aussi rafraîchissante, qu'enivrante, le regard bleu, le cheveu blond et flou, l'air toujours un petit peu vague, distrait, on a envie d'en faire notre ami des jours de marché, d'aller à la chasse aux poireaux, à la blette ou même au bigorneau avant d'échouer à la terrasse d'un café du commerce autour d'une mauresque ou d'un lait grenadine et de refaire le monde surtout, avec son tailleur pantalon bleu marine, ses petites lunettes, sa chemise bleue ce matin, la comédienne Bulogier, invitée de Boomerang pour J'ai oublié. Et c'est Vance. Elle les pointe du doigt, ses petits tennis. Invité de Boomerang Vulogier. Pour ce livre, j'ai oublié un livre placé sous le signe du flou, justement, du trouble, du vague. Et d'ailleurs, à ce sujet, Marguerite Duras disait de vous, Vulogier, ce n'est pas la nouvelle vague, c'est le vague absolu. Comment l'entendiez-vous, cette phrase?
Très bien. Comme toujours, Marguerite trouvait la phrase formidable. Toutes les phrases qu'elle sortait à propos du quotidien, à propos d'une soupe de lentilles ou d'une soupe de poireaux, tout ce qu'elle disait était toujours une perle.
Et vous êtes le vague absolu?
Non, je sais pas.
Vous en dites quoi?
Je peux pas parler de moi.
Ah bah, c'est un petit peu le but.
Non, mais je veux dire, je peux pas savoir si je suis le vague absolu.
Avec Marguerite Duras, vous avez entretenu une amitié très forte. Vous avez même fait des folies avec elle, danser sur des chansons siciliennes notamment. Et c'est intéressant parce que quand vous parlez d'elle, on a l'impression qu'elle vous intimide autant qu'elle vous fait rire.
Oui, c'est vrai. On riait beaucoup avec Marguerite. Et évidemment, les gens, le public pendant un certain temps a pensé que Marguerite était quelqu'un de très sévère, très austère, très donneuse de leçons. Mais c'est pas vrai, c'était quelqu'un de complètement... étonnante, par exemple, cette phrase, le vague absolu, il fallait la trouver. Elle aimait rire. Elle disait quelque chose et puis elle riait elle-même.
Vous avez beaucoup travaillé avec Marguerite Duras-Bulogier, notamment sur sa pièce Savannah Bay. Qu'est-ce qu'elle vous a appris sur la façon de dire un texte, de prononcer les mots?
Oui, elle a changé ma façon de jouer pendant un temps, de poser le mot dont on entend l'intelligence, la profondeur, les non-dits, bien sûr, dans ce mot, c'est-à-dire de prendre le temps qu'il faut.
Vous me donnez un exemple?
Non.
Bah si.
Par exemple, à la radio, on parle très vite, obligatoirement, puisqu'il y a un temps.
J'ai remarqué qu'on a le temps, nous,
oui,
tous les deux.
Oui.
Vous êtes une partisane de la lenteur?
Moi, je suis quelqu'un, oui. De lent, oui.
J'aimerais qu'on revienne sur un mot. Un mot, je le choisis. C'est le mot « flou ». Parce que ce mot, il revient si souvent dans votre texte. Et notamment, lorsque vous évoquez les dernières vacances que vous avez passées avec votre mère, à qui vous n'avez pas osé poser certaines questions. C'est un passage que j'aime beaucoup. Quel genre de mère est-ce qu'elle était, votre mère?
Ma mère, elle était quelqu'un d'extrêmement gentil, très fantaisiste, drôle, avec aussi, elle inventait des mots, des phrases. Elle était peintre. D'ailleurs, j'ai vu, elle avait, après avoir divorcé où elle habitait rue Saint-Jacques, elle est allée habiter avenue de Versailles. Et j'ai vu la maison de radio surgir. Elle l'a peint, d'ailleurs, la maison de la radio, on voit la moitié.
Et quel soutien est-ce qu'elle a été pour vous, qui êtes devenue maman très jeune, pour vous qui avez divorcé, à une époque où les mères célibataires et divorcées n'étaient pas très bien vues? Elle a toujours été là?
Ma mère a toujours été là jusqu'au bout. Elle a même été presque trop là, parce que ça a été très difficile quand je suis partie de chez ma mère de lui arracher Pascal, ma fille. Elle était la mère, la deuxième mère de ma fille.
Ça devait être lourd, ça, quand même.
Ben, ça a été comme ça. Et au fond, c'était très bien parce que ma fille et ma mère s'adoraient. Et je crois que c'est très difficile d'être parent. Et c'est peut-être plus facile d'aimer sa grand-mère que d'aimer sa mère.
C'est peut-être plus facile aujourd'hui, quand même, d'être parent. Avec le recul, Bulogier, comment est-ce que vous regardez la manière dont on traitait les femmes à l'époque?
Vous savez, moi je suis partie très rapidement dans la marginalité. Donc j'ai fait le combat des femmes, quand même, avec Antoinette Fouque, Monique Wittig, vous voyez.
Vous étiez révoltée?
Révoltée, non. J'étais, je pense, en action. Enfin, autant que je pouvais. J'ai pas été comme Delphine Seyrig, par exemple.
Mais c'est assez passionnant à lire votre livre, parce qu'on sent cet engagement, mais on sent aussi les silences, Bulogier. Le livre brise certains silences qui résonnent avec beaucoup d'intensité. Je me suis demandé pourquoi, à un moment, on décide de se taire. On préfère se taire.
Je pense que, en ce moment, on est en train de traverser une nouvelle révolution avec MeToo. Et on décide de ne pas se taire.
Vous en dites quoi, vous?
Sur les femmes battues, par exemple. C'est très important. Sur les femmes qui meurent, d'être battues. Il y a une nouvelle révolution avec MeToo, avec le départ de Weinstein.
Vous en dites quoi, vous?
Ben, je dis que c'est formidable. C'est fantastique qu'il puisse y avoir de nouveau cette avancée pour les femmes, ça va être difficile, ça va être compliqué, mais ça va se faire.
Il y a une chose qu'on peut pas oublier quand on lit votre livre, c'est un événement qui est au centre de votre histoire, c'est la disparition de votre fille, Pascale Augier. Qu'est-ce qui vous a permis de continuer à
vivre ? Le théâtre, parce que tout de suite, Marguerite Duras, Madeleine Renaud et Barbet Schroeder m'ont forcé à aller jouer le soir même.
Vous dites d'ailleurs dans le livre, ça m'a sauvée.
Oui, ça m'a sauvée. Et après, gentiment, les gens m'ont fait travailler tout le temps. Donc, si vous voulez, ça repoussait la douleur, si je peux dire. Ça a éloigné la douleur qui me submergeait.
Le problème, c'est que plus on repousse, plus ça revient fort.
C'est vrai. Mais quand même, ça m'a sauvée.
Comment on fait pour écrire là-dessus ? Faut du courage aussi pour se souvenir.
Oui, mais ça, c'est pas difficile parce que je m'en souviens chaque jour.
C'est nécessaire de se souvenir de ça ?
Ah ben oui. Mais oui, c'est nécessaire pour moi, en tout cas. Et je pense que pour tous les gens qui ont perdu un enfant, c'est la même chose.
J'aimerais, si vous le voulez bien, lire un passage de votre livre. Un passage où vous évoquez votre fille, Pascale Augier. Pascale me revient beaucoup en ce moment. Elle revient gaiement, comme une personne vivante. J'ai du mal à croire qu'elle n'est plus là, puisqu'elle est constamment dans mes pensées. Mais ces temps-ci, elle est également à l'extérieur, dans le livre qu'a conçu sa sœur Émeraude Nicolas, dans les salles de cinéma, à la Cinémathèque, où les Nuits de pleine lune ont ouvert une rétrospective consacrée à Éric Rohmer et dans les articles de presse. Ça me fait très plaisir. Dans le hall du Théâtre National de Bretagne, j'ai entendu une dame dire « J'ai perdu mon fils il y a très longtemps, c'était il y a 30 ans. » Et puis je me suis aperçu que moi aussi, j'avais perdu ma fille dans les années 80. Mais c'est toujours hier. C'est comme si le temps s'était arrêté, en fait. Biologie.
Ben oui, bien sûr. Il y a eu deux temps. Il y a eu un temps joyeux, puis un temps différent.
Mais alors, si on parle d'hier, demain, ça veut dire quoi pour vous, demain ?
Demain, ben, ça veut dire le prochain Trump, la prochaine série de Trump. Voilà.
Ça veut dire des livres à lire aussi.
Ça veut dire des livres à lire, mais non, j'ai pas le temps. Parce que le temps passe, cher ami.
C'est vrai.
Vous voyez ? Et je suis dans un moment où je peux dire que c'est du bonus. Tout est du bonus. Et j'aurais pas vraiment le temps de lire ce que j'ai pas lu. Ça prend beaucoup de temps, hein. Ça prend 2-3 heures par jour.
On va le prendre tous les deux le temps ce matin. Vous allez nous lire un petit extrait de livre. Vous êtes venu avec un livre de Natalia Ginsburg, qui s'appelle Les Petites Vertus.
Pour moi, toute activité est extrêmement difficile, fatigante, incertaine. Je suis très paresseuse. Et si je veux terminer quelque chose, j'ai le besoin absolu d'être oisive, de longues heures étendues sur des divans. Lui ne sait jamais rester inactif. Il fait toujours quelque chose. Il tape très vite à la machine avec la radio allumée. Quand il va se reposer l'après-midi, il a avec lui des épreuves à corriger ou un livre rempli de notes. Il veut que dans la même journée, nous allions au cinéma, puis une réception, puis au théâtre. Il réussit à faire et à me faire faire, dans la même journée, une foule de choses différentes, rencontrer les personnes les plus diverses. Et si je suis seule et que j'essaie de faire comme lui, je n'arrive à rien. Parce que là où je pensais rester une demi-heure, je reste bloquée toute l'après-midi parce que je me perds et que je ne retrouve pas les rues. Ou parce que la personne la plus ennuyeuse et que je voulais la moins voir m'entraîne avec elle dans l'endroit où je voulais le moins aller. Je ne sais pas organiser mon temps. Lui sait. Si je lui raconte comment s'est passé mon après-midi, il trouve mon après-midi raté et il s'amuse, se moque de moi. Et il se met en colère. Je ne sais pas organiser mon temps. Lui sait.
On va terminer comme ça, je ne sais pas organiser mon temps et lui, il le sait.
Oui.
J'aime bien.
Ça vous aime bien.
J'aime bien. Vous disiez que ça vous faisait un petit peu penser à vous.
Oui.
En quoi ?
En quoi, si je veux terminer quelque chose, j'ai le besoin absolu d'être oisive, de longues heures étendues sur des divans. Si je veux faire quelque chose, c'est très important.
C'est un petit peu ce qu'on a fait là ce matin tous les deux, allongés sur un divan. Bulogier, merci infiniment d'être passé faire un tour dans cette émission et merci pour vos mots, merci pour vos souvenirs aussi. C'est un beau moment. Votre livre s'appelle « J'ai oublié », il est publié aux éditions du Seuil avec la collaboration d'Anne Diatkin. C'est un très beau texte. Merci à vous, merci à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Martinerie, Joséphine Dumoulin et Jean-Baptiste Audibert. On se retrouve lundi, les amis, tout de suite les médias, Sonia De Villers. Juste après ça.
Y'a pour ti, tout pour lui. Y'a pour ti, tout pour lui. Y'a pour ti, tout pour lui.
Y'a pour ti, tout pour lui. Y'a pour ti, tout pour lui. Y'a pour ti, tout pour lui.
Pongo al orillete.
Mami.
Colgando del cuello los juguetes.
Del cuello los juguetes.
Rodeado de flores y billetes.
De flores y billetes.
Estamos worldwide a machete.
Sí, sí.
Y mira Bang Bang si con nosotros te entremete. No quiere que lo apriete. Me da igual si tu amor me compromete.
Me da igual.
Contigo puesto que el número 7. Si me entrego que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me ponga los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco. Que tú me cantes.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí,
por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que tal la esquina esta sazón sonaría. ¿Quién lo diría? Que tal la esquina esta sazón sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la esquina esta sazón sonaría.
Yo parti, tout por mi, Rosalia sur France Inter. Et tout de suite, Sonia De Villers, les médias, l'instant M.